Alors bonjour à tous. Et oui, c'est étonnant comme Dieu fait les choses toujours, hein. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions n'arrivent pas à leur terme et elles se renouvellent chaque matin. Et c'est beau de venir encore ce matin avec ces paroles à nos oreilles, à nos yeux. Et elles font écho à ce que nous réfléchissons avec les anciens depuis un certain temps, de se remémorer toutes les promesses que l'Éternel, que le Seigneur Jésus nous a faites. Et on voit que la parole, de partout, ces promesses jaillissent, elles nous sont rappelées ainsi, dimanche après dimanche, des fois, et ce matin, elle nous parle de cela, de ces promesses de bonté qui se renouvellent. Et pourtant, Jérémie, il a vécu une vie, mais globalement, au fond du trou. Au fond de les citernes, au fond de la boue, de la fange. Et voilà ce qu'il peut dire. Alors, peut-être on n'a pas les mêmes vies que Jérémie, mais il nous arrive malgré tout de passer par des moments de détresse, des moments difficiles. Et on sait que dans l'Église, parmi des frères et sœurs, il y en a qui passent par des temps très difficiles. Et malgré tout, on a cette espérance en nous. On a cette chose sûre que le Seigneur veut nous parler, veut intervenir dans nos vies pour donner cette paix, cette joie dans notre vie intérieure. Et ce matin, donc, c'est là-dessus que je voudrais... c'est ce sujet de cette vie intérieure riche, pleine, que le Seigneur veut nous donner, et c'est le thème un peu de ce matin. Et bien sûr, sans le Saint-Esprit en nous, ça, ce n'est pas possible. Et c'est ce miracle que fait le Saint-Esprit en nous, c'est de faire finalement habiter un si grand Dieu dans un si petit cœur. Et bien évidemment, cela fait écho à ce que nous avons reçu le week-end dernier lors de ce séminaire sur la prière, où nous avons pu voir comment Dieu a touché le cœur de Néhémie, pour qu'il se lève, pour qu'il entraîne tout le peuple à se réveiller pour rebâtir la muraille de Jérusalem. C'est Dieu lui-même qui a entamé une transformation et engagé un réveil dans le cœur de Néhémie. Et à partir de la situation finalement déplorable des murailles de Jérusalem. Peut-être vous l'avez remarqué, ça m'a frappé aux yeux le week-end dernier, mais le livre de Néhémie, c'est un des rares livres de l'Ancien Testament où on ne voit pas l'Éternel se manifester de façon directe. Quand il parle à Jérémie, il ne parle pas. Il n'y a jamais écrit « l'Éternel dit, l'Éternel se révéla », ainsi de suite. Il y a à deux endroits, et en particulier au chapitre 2, verset 12, on voit que, comme aussi l'a rappelé Yann, il y a une préparation qui est faite. On sait qu'il y a des prophètes qui ont, pendant ces 70 ans, qui ont prophétisé, qui ont annoncé des choses. Par contre, Néhémie témoigne que Dieu lui avait mis au cœur de faire quelque chose au Jérusalem. C'est au verset 12 du chapitre 2. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Et finalement, avec cette conviction divine, les yeux de son cœur sont ouverts. Il se réveille et découvre le dramatique de la situation à Jérusalem. Et à partir de là, tous, pas seulement lui, il se lève. Ils rebâtissent, ils prient, ils louent Dieu, et ensuite, il vient ce désir commun de vivre ensemble et d'entendre la parole prêchée. Et s'il est important, finalement, de se rappeler les promesses de notre Dieu, c'est parce que nous vivons dans un monde hostile à Dieu et à ceux qui lui appartiennent ici-bas. Et ça, c'est une grosse raison de se rappeler de cette fidélité de Dieu. Ici-bas, rien n'est prévu pour que le chrétien, finalement, qui aime Dieu, s'épanouisse spirituellement. Au contraire, l'ennemi a tout un arsenal de moyens pour nous détourner de notre chemin. Et pour faire obstacle à l'œuvre de Dieu qui est dans notre vie aussi intérieure. Voilà pourquoi il est important de se réunir ensemble pour bâtir, de prier, de louer Dieu ensemble et d'avoir cette soif commune d'entendre la parole de Dieu pour s'approprier les promesses et surtout la réalité de notre salut. Quand la parole de Dieu nous dit, c'est en 1 Jean 4, verset 4, Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ben, nous entrons là vraiment de plein pied, sans aucun doute, dans la réalité de notre salut engagé depuis notre conversion. Ici, Jean s'adresse aux petits-enfants dans la foi. Et déjà, ces petits-enfants, ils ont vaincu l'ennemi. Car celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais ce verset, c'est une promesse béton, c'est une promesse dynamite. Il faut graver ça dans notre mémoire pour éviter, finalement, dès que les premières difficultés, de percevoir les ennemis de nos âmes plus puissants qu'ils ne paraissent par rapport à la grandeur de Dieu qui nous anime. Et ici, en communauté, en Église, ben, voilà, on est là pour se rappeler ces choses, pour s'encourager, pour s'ancrer dans ces vérités que des fois on a du mal à croire et à discerner. Cette vie divine intérieure apporte l'énergie nécessaire pour s'opposer et surtout résister aux attaques de l'ennemi, au découragement, aux tentations. C'est pour ça la première chose que nous avons besoin de réaliser avant d'aller plus loin, c'est la qualité, je dirais, et la quantité de la vie que notre Seigneur est venu nous donner dans notre si petit cœur, un si grand Dieu. On en a un aperçu par les paroles vraiment mêmes du Seigneur Jésus, en Jean 10, verset 10, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Ainsi, tout ce qui a vraiment motivé la venue de notre Seigneur est ce désir de nous donner cette vie qui en vaille la peine, une vie qui est différente à la vie que l'on peut connaître. Couramment que l'on côtoie peut-être dans notre monde. Et comme le Seigneur l'explique aussi à la femme samaritaine, la vie qu'il est venu donner est comme une source, il est dit comme ça, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Non seulement cette vie est abondante dans le présent, grâce à sa présence en nous, mais aussi elle est abondante car elle a changé notre ancienne nature et elle est désormais inscrite dans notre éternité. Grâce à l'œuvre de Christ, la pensée de l'éternité que le Créateur a mis en tout homme, elle peut se transformer en une vie abondante et éternelle. Alors, pour la vie éternelle, je crois que c'est bon, nous arrivons à intégrer ce que ça veut dire, même si c'est quelque chose qui, de façon, avec notre perception humaine, qui nous déplace complètement. Mais en revanche, pour la vie en abondance, pourquoi avons-nous plus de mal à entrer concrètement dans la réalité de cette promesse? Bon, tout simplement parce que cette réalité n'est pas forcément la nôtre. L'Écriture parle de la création de deux Adam. Le premier qui a partagé sa vie avec Ève, et par lequel, oui, nous sommes morts. Et le dernier, Christ, par lequel désormais nous avons la vie. C'est ce verset de 1 Corinthiens 15, verset 22, et ce chapitre 15 de Corinthiens qui nous parle de ce dernier Adam. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alors, à quel Adam est-ce que nous nous identifions? Quelle perception de nous-mêmes avons-nous? Est-ce que nous nous voyons tels que Dieu nous voit, avec la même identité que Christ? Ou bien souffrons-nous toujours finalement de notre mauvaise image de nous-mêmes due au fait que nous avons été chassés du jardin d'Éden? Et que nous répétons chaque jour les mêmes échecs que le premier Adam. Le fait que nous avons hérité de la même vie physique que lui ne justifie plus que nous devons avoir finalement une mauvaise perception de nous-mêmes. Car entre-temps, Christ, le dernier Adam, est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Voilà pourquoi, en devenant chrétiens, nous devenons enfants de Dieu et nous acceptons aussi de nous voir tels que Dieu nous voit. Ainsi, adoptés par lui, nous ne sommes plus enfermés hors de la présence de Dieu, éloignés de Dieu. Mais nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Voilà, ça, il faut que ça rentre, assis en Christ dans les lieux célestes. Alors évidemment, on peut continuer à vivre éloigné de la réalité de cette vie abondante en Christ et tout en étant chrétien, en cherchant à gagner par nos propres efforts notre place d'enfant de Dieu. Ainsi, nous nous laissons manipuler par nos propres pensées. Nous continuons à vouloir régler avec nos bonnes vieilles recettes les soucis de nos vies. Nous avons vraiment du mal à guérir de nos blessures, de notre passé. Et fort de ces échecs successifs dans notre vie chrétienne, le diable, il est dit, il rôde pour nous culpabiliser, nous accuser et ainsi finalement rajouter de nouvelles blessures. Mais disons stop à cet engrenage désastreux et paralysant pour notre vie chrétienne. En prenant conscience que chacune de ces difficultés de notre vie, de notre position assise dans les lieux célestes en Christ. Grâce à cette réalité, la bataille dans nos pensées est gagnée. Nous pouvons prendre conscience de notre victoire en Christ. Nous sommes libérés de nos chaînes. Les forteresses de nos raisonnements peuvent s'écrouler. Nous pouvons nous décharger de nos fardeaux trop lourds à porter tout seul. Et nous pourrons aussi résister aux forces spirituelles de ce monde. Le Seigneur savait très bien que nous aurions du mal à comprendre vraiment la réalité de notre identité en Christ. C'est-à-dire qu'il savait que nous douterions de sa capacité à satisfaire nos besoins essentiels et qu'ils soient matériels ou spirituels d'ailleurs. C'est aussi pour cela qu'il s'est fait homme. Cette compréhension difficile de ce message, nous pouvons le percevoir avec l'échange que le Seigneur a avec la femme samaritaine. Cette femme, finalement, ne voit dans un premier temps que les besoins physiques donc de Jésus, et puis en plus avec cette incapacité du Seigneur à puiser de l'eau. Il n'a rien pour puiser. C'est malin. Et pourtant, malgré le fait, il interpelle. Jésus l'interpelle en lui disant, en Jean 4, verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire. » Et il t'aurait donné de l'eau vive. Si nous connaissons le don de Dieu avec toutes ses grâces, nous pouvons entrer dans ses promesses et lui demander d'intervenir dans nos vies pour y déverser cette eau vive qui ne donne plus jamais soif et qui donne la vie en abondance. Cette même incompréhension, on la retrouve aussi avec Nicodème, qui ne comprend pas du tout cette notion de la nouvelle naissance. Pour lui aussi, cette nouvelle naissance se limite à son corps physique. Elle est pour lui synonyme d'un nouveau départ, et puis en repartant à zéro, surtout depuis la naissance. Mais c'est finalement la perception humaine, ça, de la nouvelle naissance, notre perception que notre intelligence limitée peut avoir. Et ça, c'est celle qu'on retrouve finalement dans les jeux vidéo, avec la possibilité d'avoir des vies successives, ou bien carrément dans les croyances du nouvel âge, avec la réincarnation, pas plus loin. L'homme ne peut pas aller plus loin. Et là, avec Nicodème, de nouveau, notre Seigneur donne un peu de hauteur et replace la réalité de l'identité de l'homme au niveau spirituel. Avec cette importance d'être né de nouveau et d'être né de l'esprit, il précise. Malgré son rang, Nicodème ne connaît pas ces choses. Et pire, il a vraiment du mal à y croire. Et c'est ce qui pousse notre Seigneur à dire et à nous dire, Jean 3, verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Inlassablement, l'homme réduit sa perception des choses à ce qu'il voit ou ce qu'il connaît, et il met donc sa foi dans les choses terrestres. Alors que notre Dieu veut l'élever et l'aider à percevoir les bénédictions spirituelles en Christ. Et tout cela en lui parlant des choses célestes, ben oui, que nous tous, on a du mal à discerner. Tout le plan de Dieu à notre égard est basé sur ce principe. Déjà dans l'Ancien Testament, c'était le cas. Le verset ici affiché, en Samuel, de Samuel 1, Samuel 16, verset 17, « L'homme regarde à l'apparence extérieure, l'Éternel regarde au cœur. » Et quand Dieu regarde notre cœur, le cœur des rachetés, que voit-il? Il voit un cœur lavé, purifié. Il voit un cœur blanc comme la neige. Et quand nous nous regardons, ou même qu'on regarde les autres, comment est-ce que l'on se perçoit? Comment on perçoit l'autre? Est-ce qu'on n'a pas facilité à voir justement toujours ce péché, toujours le mal, toujours ce qu'il a fait? Et justement, Dieu veut que nous élevions nos regards pour nous aider à voir la même chose que lui. Et même la prière de Paul va dans ce sens pour que nous comprenions notre identité en Christ. Éphésiens 1, verset 16 dit « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Mais amen, associons-nous à cette prière. « Afin que nous ayons les yeux illuminés pour détourner notre regard des choses vaines. » Ça, c'est le verset 37 du psaume 117. Ce même psaume nous encourage à nous attacher à la parole de Dieu pour que notre cœur soit élargi et que nous discernions au-delà de notre perception toutes ces promesses de vie intérieure. Ainsi, moi, je vous encourage, mais cette semaine, là, cet après-midi, je ne sais pas quand, à lire ce psaume 119, là où c'est encore tout chaud dans votre tête, vous constaterez l'effet positif de cette parole. Toutes les promesses qu'elle renferme sur le cœur de l'homme. Et d'ailleurs, tout comme le sermon sur la montagne, ce psaume commence par « heureux ». Et tout au long de ces versets, il fait référence aux promesses. Aux promesses de vie, de joie, de paix, d'espérance, de force, d'intelligence pour enfin être libérés de nos péchés. L'Éternel a aimé et supporté pendant très longtemps un peuple très souvent incapable de recevoir ses promesses, malgré des preuves vraiment tangibles de sa présence et de son action. Nous avons déjà évoqué la difficulté du peuple d'Israël de s'approprier le projet de la conquête du peuple d'Israël, ce pays de la promesse, ce pays qui est ruisselant de lait et de miel, et tout simplement parce qu'ils étaient eux-mêmes incapables, pour la plupart, de discerner les bénédictions. Et ils voyaient principalement les difficultés terrestres de ce projet et non pas le secours céleste prévu par l'Éternel. D'autres, certainement, ne voyaient aucun intérêt à mener de nouveaux combats pour chasser les ennemis de l'Éternel, puisque, de toute façon, dans le désert, ils étaient bien. Il y avait le tabernacle, il y avait la manne, il y avait la nuée. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Pourtant, avec du recul, nous pouvons dire maintenant que simplement Josué, qui est pour nous une image de Christ, excusez-moi, j'ai sauté une ligne, hein. Nous pouvons dire maintenant que ce pays de la promesse existait bel et bien, et qu'il n'avait finalement qu'à croire et suivre tout simplement Josué, qui est pour nous une image de Christ. Il me semble que nous en sommes aussi au même point. Nous entendons bien cette promesse de vie en abondance. Nous entendons bien cette promesse d'eau vive qui ne donne plus jamais soif. Mais n'entendons-nous pas aussi des voix bien pensantes qui relativisent et cherchent à minimiser la portée réelle de ces paroles? Dans tous les domaines de notre vie, n'avons-nous pas nous-mêmes aussi ce même réflexe à surtout voir le problème et trouver finalement une solution rapide de repli, au lieu de vouloir continuer l'aventure avec notre Dieu en comptant sur ses promesses? Mais vraiment qu'il est important d'avoir les yeux de notre cœur illuminés pour que nous sachions vraiment l'espérance qui s'attache à son appel. Et pour que toutes les difficultés d'autres terrestres, finalement, soient masquées. Elles sont toujours là, les difficultés. On en aura toujours des difficultés. Mais voilà, relativisons les choses grâce à l'aide du Saint-Esprit en nous. Je le redis encore, nous sommes destinés à être vainqueurs dans nos vies ici-bas, tout en étant assis dans les lieux célestes en Christ. Disons donc stop, je le redis, à ce mécanisme vraiment de limitation systématique de l'œuvre de notre Seigneur qu'il veut réaliser en chacun de nous. Oui, bien sûr, il y a des combats, il y a des difficultés, des fardeaux, peut-être qui sont lourds à porter, mais nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous fortifie. Et je continue dans toutes ces promesses de vie intérieure abondante, grâce à l'œuvre que le Saint-Esprit veut mener dans nos vies. et justement pour rendre une vie toujours plus abondante. Et le projet du Saint-Esprit dans nos vies, c'est d'y faire abonder son fruit, pour qu'il se décline d'ailleurs en 9 saveurs toutes plus précieuses les unes que les autres. Ainsi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi sont les différents parfums que le Saint-Esprit veut que nous ressentions dans nos vies intérieures. Bien sûr, avant d'en faire bénéficier notre prochain, c'est d'abord notre esprit renouvelé, puis notre personne tout entière qui en profite. Ainsi, quand notre Seigneur nous dit en Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Ou alors encore un peu plus loin, en Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » C'est parce qu'il nous connaît très bien et il sait très bien combien les hommes ont besoin de paix, ont besoin d'amour, ont besoin de joie. Et ces vérités sont pour nous et nous concernent en priorité individuellement, nous tous enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients vraiment des sacrifices que sont prêts à faire les incroyants pour être en paix avec eux-mêmes et ressentir la joie? Mais eux, ils n'ont accès uniquement aux solutions que propose le monde. Et là, vous pouvez constater comme moi, il y a un effort énorme qui est fait, une énergie énorme qui a été faite, des dépenses colossales qui sont engagées pour imaginer, proposer finalement toujours plus de nouvelles distractions. Forcément, pour l'homme naturel, la paix et la joie ne peuvent être que ponctuelles. Et le bonheur qu'il procure ne sont accessibles que si son corps dégage finalement suffisamment d'hormones de plaisir, comme l'endorphine, la dopamine, l'adrénaline, ou encore toutes les autres substances sérines, autorisées ou pas d'ailleurs, qu'il peut se procurer. Bien sûr, nous sommes tous créés avec cette faculté naturelle de produire nous-mêmes des hormones, mais en aucun cas c'est le prétexte d'en abuser de pratiques addictives pour satisfaire l'appétit dévorant de notre chair, qui n'en a jamais, jamais assez. Mais disons donc stop à cet engrenage désastreux et paralysant pour notre vie chrétienne, et levons les yeux pour qu'ils soient illuminés par le Saint-Esprit. Son rôle de consolateur est aussi celui de nous transmettre la paix et la joie de notre Seigneur, qui sont sans aucune mesure à ce que le monde peut nous procurer. Romains 14, verset 17 dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Nous appartenons au royaume de Dieu. Et sa logique n'a rien en commun avec ce que nous pouvons connaître de ce monde. N'a rien en commun avec ce que les attitudes que le monde nous propose. Mais disons-nous une fois pour toutes, on n'a plus rien à voir avec cela. Alors oui, je sais bien, c'est une grosse théorie, hein, on est toujours qu'un bien sur terre, c'est pas facile. Mais laissons-nous gagner par ce Saint-Esprit qui est en nous. Il veut agir, il veut nous faire ressentir ce fruit de l'Esprit, ces saveurs différentes. Mais goûtez-y, prenez du plaisir à chaque instant pour voir un peu qu'est-ce que ça veut dire, la petite patience, moi qui me manque toujours, hein, Deb. La bonté, cette paix, cette joie. Le bonheur de connaître Dieu notre Père n'a rien de comparable dans ce monde. Voilà pourquoi nous sommes exhortés à nous dépouiller de notre ancienne façon de penser, pour laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit encore « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà comme nous sommes appelés à avancer dans notre vie chrétienne. Évidemment, on a beau être ici dans l'Église, d'être qu'avec des enfants de Dieu, mais on est toujours dans le monde. D'ailleurs, Jésus n'a pas prié pour que nous soyons ôtés du monde. Par contre, il a prié pour que nous soyons préservés du mal. Nous sommes donc en chemin, en butte à des difficultés, à des luttes, et que Dieu d'ailleurs utilise, et il veut utiliser. Et c'est pour ça que ces luttes, elles ne disparaîtront pas, il y en aura toujours. Il veut utiliser ces luttes pour que nous réalisions toujours plus quelle est cette œuvre que lui-même réalise en chacun de nous. Et ça, c'est dans le but finalement que nous marchions de progrès en progrès. Bien entendu, la vie chrétienne, ce n'est pas la garantie d'une vie sans problème, bien au contraire. Moi, quand je vois mes collègues non-croyants, bien souvent, ils ont beaucoup moins de soucis que moi. Et on a des combats que les incroyants ignorent. Mais la vie chrétienne, c'est l'assurance de voir l'action de Dieu à travers nous. Finalement, c'est ça la vie en abondance. Toutes ces promesses, finalement, que l'on vient de voir et puis que on touche peut-être que du bout du doigt, ne sont en fait qu'une réalité qu'il faut accepter avec foi. Ouais, je reviens sur cette image du peuple d'Israël, mais qu'est-ce qu'on aurait fait? De quel côté on aurait été quand on aurait été avec Josué là? Est-ce qu'on lui aurait essayé de savonner la planche? Ou est-ce que, non, allez, on y va, on fonce. Les yeux de notre foi, les yeux de notre cœur, voilà, qu'ils soient illuminés. Que cette parole vraiment fasse en nous cet effet. Que le Saint-Esprit en nous, qui est là, qui est palpable, ben, puisse s'épanouir dans nos vies. Qu'il puisse nous faire ressentir ces quelques saveurs, cette énorme richesse. Et même si c'est infiniment comme un grain de moutarde qu'on peut rentrer dans ces choses-là, on voit que les montagnes, nos difficultés, oui, elles sont là, mais elles peuvent être bougées. Alors oui, on peut être des encourageurs aussi pour, je ne sais pas si ça se dit, mais pour nos personnes qu'on connaît, mais qui sont au fond du trou. Pour ceux qui, vraiment, on ne comprend pas pourquoi ils en sont là. Mais qu'on puisse leur laisser ouvrir cette petite fenêtre de voir que finalement, les problèmes, oui, sont là. Les problèmes sont bien une réalité. Mais qu'au-delà de ces réalités, il y a Christ vraiment qui est là et qui veut agir en chacun de nous. Alors, un moment de silence, mais je ne sais pas, il y avait Dieu fidèle. Est-ce qu'on ne pourrait pas le rechanter? Oui, Père, nous voulons vraiment te louer, te rendre grâce, c'est vrai, pour ta fidélité. Pour nous faire entrevoir vraiment encore ce matin quel Dieu tu es, quel plan parfait tu as à notre égard. Et tu vois, nous aussi, nous sommes bel et bien ici, sur cette terre. Nous sommes bien, et bel et bien avec des difficultés, des fardeaux qu'on a du mal des fois à te lâcher. Mais voilà, tu veux nous faire grandir encore ce matin. Tu veux que nous passions encore un cap par rapport à des choses qui nous tiennent liées. Et nous voulons te prier encore ce matin, te louer, t'adorer. Et surtout, nous pensons vraiment à nos frères et sœurs qui sont dans cette situation, et je pense vraiment à Anna et puis à Jean-Mi, vraiment que tu te manifestes à eux ce matin, que tu les libères totalement et que tu puisses vraiment leur permettre de voir, d'entrevoir cette espérance, cette dynamique, cette énergie que toi tu veux mettre à leur égard. Au nom du Seigneur Jésus, amen. De la semaine. Tout d'abord le programme qui est déjà bien rempli. Donc demain lundi à 14h Femme Club chez Rebecca. Mardi une réunion importante, une réunion de membres. Donc déjà l'horaire c'est à 20h. Attention de ne pas arriver à 20h30, vous auriez une demi-heure de retard. Alors ça c'est donc le début du processus de vote suite à la question des mises aux normes de nos locaux et les possibilités d'agrandissement. Donc c'est vraiment important d'y participer. Il y aura notamment les informations concernant le financement. C'est important. On peut difficilement envisager de prévoir des travaux s'il n'y a pas de financement. Et le financement, ben, vous l'avez compris, on est tous concernés. Donc on est tous invités à venir. S'il y avait aussi donc c'est une rencontre de membres, mais si des non-membres voulaient y participer, la porte est ouverte, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Jeudi, la rencontre de la pastorale, merci de prier pour cela aussi. Vendredi, justement, une soirée qui est organisée dans le cadre de la pastorale, qui est donc le théâtre de la Marelle, qui va se produire à l'église de Crosswood, à 20h30, et le titre de la soirée, c'est « Sur le balcon du Baobab ». Alors, moi, j'ai participé aux 4 ou 5 dernières présentations de la Marelle. C'est vrai que c'est un théâtre chrétien, de qualité, et moi, je vous invite vraiment, parce que c'est pas courant quand même d'avoir une troupe de théâtre chrétienne, et qui propose en plus vraiment une soirée de qualité. Alors je n'ai pas vu la soirée qui va nous être présentée, mais je leur fais tout à fait confiance. Par contre, donc c'est à Crosswood, l'heure à 20h30, excuse. Ouais. Alors par contre, pour l'organisation de cette soirée, il y a encore 3 besoins qui ne sont pas remplis au niveau de la participation, au niveau des aides. Il faut encore une personne à 16h, pour aider à décharger le camion avec tout le matériel, la scène, etc. Donc ça prend environ une heure. Donc une heure de temps, de 16h à 17h, une personne qui peut donner un coup de main. Il faut aussi encore une personne qui prépare une entrée pour le repas. Donc la troupe de théâtre avec l'équipe, ils prennent le repas après la soirée. Et donc il manque encore une entrée pour ce repas et un plat de légumes. Donc pour cette personne. Donc si quelqu'un est intéressé soit pour une entrée, soit pour un plat de légumes, faites-le moi savoir. Aussi pour le coup de main à donner pour décharger. Sinon, dans les activités, samedi à 14h30, le groupe d'ados. Oui ? À 15h, excuse. Alors à 15h, le groupe d'ados, samedi.
Et puis, puisqu'on en est au changement d'horaire, samedi, il y a aussi le groupe de jeunes qui est à 20h et non pas à 20h30. Dimanche, à 9h30, le thé-café, moment convivial. Et puis, notre culte ici dans cette salle à 10h30. La semaine d'après, le mardi, il y aura donc l'étude biblique pour les aînés avec Alfred qui l'organise. Voilà pour les annonces du programme. Je ne crois pas avoir oublié quelque chose, sinon, dites-le. Oui.
Une petite précision pour la réunion de membres mardi. En fait, c'est le processus de vote, mais le vote n'aura pas lieu mardi même, mais aura lieu entre mardi et le 3 novembre. Donc, il y aura vraiment une période de réflexion à la suite de toute l'information qui aura été partagée mardi soir.
Oui. Merci, John. Sinon, concernant les annonces des membres de l'Église ou de leur famille, on pense à Johanna et sa famille. Johanna a perdu son grand-papa, le papa de Hélène. Et c'est vrai que nous voulons vraiment penser à toi, Johanna, penser à vous. C'est toujours quelque chose, le départ de membres de la famille. Et c'est vrai que nous voulons nous associer aussi à votre peine. Nous voulons penser aussi à Didier, qui était pas bien ces derniers temps. C'est vrai que Didier, vu son déficit immunitaire, il attrape vite les petites microbes ou virus ou bactéries qui se promènent. Et donc là, il n'était pas bien du tout. Il a perdu un petit peu de poids. Ça allait mieux ensuite. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment partager ce souci et le porter aussi dans nos prières. Une annonce maintenant toute pratique concernant une commande que la librairie va faire. Il y a possibilité de commander des calendriers. Alors, les calendriers, donc il faut déjà différencier les calendriers avec les feuillets que l'on détache avec un verset biblique et puis éventuellement avec un petit commentaire de ces calendriers-là, qui sont les calendriers que l'on peut mettre au mur où il y a tout le mois, tous les jours. Alors, il y a toutes sortes de calendriers. Il y a plusieurs prospectus en plus. Donc, n'hésitez pas à contacter la librairie, Pascal. Il y a aussi d'autres possibilités, c'est-à-dire il y a aussi des cartes, toutes sortes de cartes qui peuvent être commandées avec versets ou toutes sortes de choses qui peuvent être offertes aussi en fonction de circonstances particulières. Il y a aussi un catalogue pour des idées de cadeaux. C'est vrai que Noël approche, c'est bientôt là. Alors si vous voulez faire des cadeaux, il y a encore d'autres cartes postales ici qui sont vraiment de bonne qualité. Alors n'hésitez pas à contacter la librairie, c'est important aussi de se grouper pour ce type de commande. C'est vrai que ça partage les frais de port, c'est quand même plus logique. Sinon, une autre information, au fond de la salle, il y a le calendrier des événements de l'année scolaire qui est affiché au fond. Prenez-en note, prenez note des dates, n'hésitez pas à les noter dans vos agendas, c'est important aussi de le savoir à l'avance, comme ça, ça permet de s'organiser si vous voulez partir en week-end ou quelque chose. Il y a déjà une série de dates qui sont posées et qui peuvent nous aider justement à mieux participer. Ce calendrier qui est au fond de la salle, il est aussi accessible sur Internet via un lien qui est sur le site de l'Église. L'avantage du calendrier qui est sur Internet, c'est que les anciens vont le tenir à jour. Donc, lorsque vous pourrez le consulter dans quelques semaines, s'il y a des changements, ce calendrier-là sera toujours maintenu à jour. Voilà pour les annonces. Sinon, je vous invite à vous lever. Oui.
Juste donner des nouvelles d'Annie. Annie, tu vas pas voir.
Oui.
Elle est fatiguée. Elle a fait des analyses en fin de semaine. Elle a un très, très gros déficit de globules rouges. Elle a déjà eu une transfusion en fin de semaine. On aura probablement une ou deux dans cette semaine qui vient. Je crois qu'on va aussi prier pour...
Ouais. Pour Annelise. Merci Jean-Paul. Oui. Je vous invite à lire un verset que Pierre a parcouru un petit peu pendant son message. C'est drôle, hein, comme quoi il y a parfois aussi des clins d'œil comme ça. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Amen. Passez tous une bonne semaine, un bon dimanche.